Bonjour Éric Biégala.
Bonjour Guillaume.
Avec pour commencer bien sûr le second et dernier débat public entre les deux candidats à la présidentielle américaine.
Oui, difficile de ne pas en parler. Le débat Trump-Biden de Nashville il y a quelques heures fait la une d'une bonne partie des médias ce matin de par le monde, notamment bien entendu aux États-Unis. Les journaux datés de ce vendredi ne sont pas encore dans les kiosques là-bas, mais leurs sites web ont amplement couvert l'événement, commentant souvent en direct les échanges entre les deux candidats. USA Today par exemple, l'un des quotidiens les plus lus aux États-Unis, est réputé plutôt centriste en politique. Sa couverture du débat est sobre, un échange qualifié de combatif, mais bien moins virulent que lors de la précédente joute, écrit le journal. Le débat de septembre à Cleveland avait en effet frôlé l'inaudible, tant les deux hommes s'étaient écharpés. Enfin, il y a eu un vrai débat entre le président Trump et le candidat des démocrates Joe Biden, écrit Sabrina Siddiqui dans les colonnes du Wall Street Journal, le titre proche des républicains le plus important en termes de diffusion payée aux États-Unis. Il y a eu consensus sur le fait que l'échange était bien mieux organisé que celui du mois dernier, poursuit-elle. Notant au passage que Trump avait même félicité la modératrice, la journaliste de NBC, Kristen Welker, pour la manière dont elle avait tenu la chose, alors même qu'il accusait cette dernière de partialité il y a encore quelques jours. Du côté des journaux penchant plutôt du côté démocrate, le New York Times consacre lui aussi de longs développements au débat de Nashville. Le quotidien s'est essayé à un genre un peu particulier, le commentaire analytique en direct sur son site web et notamment le fact-checking, la vérification factuelle en bon français, vérification factuelle des affirmations des deux adversaires. Et là, sans trop de surprise, les journalistes du Times se sont surtout acharnés sur le candidat Trump, déjà surnommé le menteur en série par le quotidien. Près d'une vingtaine de contre-vérités ou d'allégations tendancieuse repérée pour Trump contre une seule pour Joe Biden. Alors c'est sans doute pas très équilibré, mais je vous en recommande quand même la lecture, Guillaume. C'est un très bon résumé des enjeux politiques américains balayés au cours de ce débat et c'est surtout très amusant à lire.
Alors ailleurs dans le monde, Eric, en Europe notamment, c'est la Pologne qui fait la une avec une décision de justice qui rend l'avortement quasiment impossible dans le pays.
Oui, le gouvernement conservateur du PiS et quelques députés d'extrême droite ont saisi la Cour constitutionnelle du pays pour obtenir un jugement définitif sur la question de l'avortement, rappelle Adam Easton, le correspondant en Pologne de la BBC. C'était plus pratique et moins risqué politiquement que d'organiser un débat au Parlement, d'autant que la majorité des juges de la Cour constitutionnelle y ont été nommés par le gouvernement PiS. La Cour constitutionnelle polonaise a donc déclaré inconstitutionnel tout avortement qui aurait été décidé suite à la découverte de malformations sévères du fœtus, l'un des seuls cas où un avortement était encore possible dans le pays. Le gouvernement s'est empressé d'annoncer de nouvelles dispositions législatives, rapporte ce matin Zienik, pour prendre dorénavant en compte les futurs enfants handicapés qui naîtront immanquablement du fait de ces avortements devenus impossibles. Mais autant dire que la décision de la Cour constitutionnelle, qui semble clairement avoir été pilotée par le gouvernement, ne fait pas du tout l'unanimité, loin s'en faut. Plusieurs milliers de manifestants se sont réunis hier soir spontanément pour protester devant le siège de la Cour, rapporte la Gazeta Wyborcza ce matin. Ils se sont ensuite dirigés vers l'appartement de Jarosław Kaczynski, le leader du PiS. Des rassemblements spontanés ont aussi fleuri un peu partout dans le pays et une manifestation générale a été convoquée à Varsovie pour ce vendredi 19h. En 2016, plus de 100 000 Polonais et surtout Polonais étaient déjà descendus dans la rue pour protester contre un éventuel durcissement des lois sur l'avortement. À l'époque, le gouvernement PiS avait reculé, il est cette fois passé en force, évitant tout débat public et déléguant à la Cour constitutionnelle la décision finale sur le droit à l'avortement.
Enfin, en Asie, Eric, c'est le conflit arméno-azerbaïdjanais qui occupe les esprits.
Oui, un conflit qui, semble-t-il, a déjà fait bien davantage de victimes que les deux belligérants n'en ont annoncé. À l'occasion d'une allocution publique télévisée pour le club de Valdai, Vladimir Poutine a confirmé être en lien quotidien avec les leaders arméniens et azerbaïdjanais, a évoqué au moins 2000 morts de part et d'autre, 5000 victimes au total. C'est bien plus que le petit millier de victimes des estimations officielles précédentes, relève la BBC. Il faut dire que, comme dans toutes les guerres, les tambours de la désinformation battent à plein régime et qu'Arménie et Azerbaïdjan mènent une véritable guerre de l'information à propos du Nagorno-Karabakh, écrit la BBC. L'unité anti-désinformation et vérification des faits, oui, ça existe, la BBC, cette unité anti-désinformation et vérification des faits est allée voir ce qui pouvait bien se raconter, notamment sur les réseaux sociaux, et a ainsi collecté un certain nombre de mensonges flagrants, comme ces vidéos présentées comme illustrant le conflit et qui ont été tournées lors d'un exercice militaire en Russie. La BBC prévient d'ailleurs, citant l'International Cyber Policy Center, qu'il y a eu sur Twitter une démultiplication de nouveaux comptes associés aux hashtags liés au conflit. Quant à Facebook, le réseau social a pris la décision de fermer 584 489 comptes liés à l'Azerbaïdjan, ainsi que 7906 pages et 447 comptes Instagram, lesquels étaient impliqués dans ce que le réseau social appelle des, je cite, « comportements inauthentiques coordonnés », autrement dit, une bonne vieille campagne de propagande et de désinformation. Manière aussi de se rappeler ce vieil adage, valable dans tous les conflits, la vérité est toujours la première des victimes de guerre.
Merci beaucoup, Eric Biegala.